Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
Je pense que le confinement, il va être national. C'est pas le couvre-feu qui va suffire. Mais s'il y a confinement, il faut qu'il soit accompagné par une politique de dépistage et une politique d'isolement.
La deuxième vague va-t-elle déboucher sur un deuxième confinement? Comme Gilles Pialou qu'on vient d'entendre, les médecins hospitaliers et les autorités de santé préconisent désormais un reconfinement pour casser la flambée épidémique. Au sommaire également, le nouveau report de la réforme de l'assurance chômage, pas avant le 1er avril. La France qui prépare sa riposte à la Turquie d'Erdogan, une rixe mortelle dans la Drôme pour un refus de cigarette et puis l'autoconfinement des navigateurs du Vendée Globe à 15 jours de leur départ. Invité d'Europe Midi, un grand nom de l'architecture française, le père du Mucem à Marseille, Rudy Ricciotti. Il publie Le béton en garde à vue qui est un plaidoyer à la fois pour le béton et pour la République.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Situation difficile, critiques, chiffres angoissants. Les autorités de santé affichent leur inquiétude, voire leur pessimisme face aux indicateurs de l'épidémie qui bondissent chaque jour un peu plus haut en France, au point d'oser prononcer le mot qui semblait avoir été rangé au magasin des mauvais souvenirs, reconfinement. Victor Delande, voyons d'abord avec vous ces chiffres qui laissent penser que la pandémie est désormais hors de contrôle.
Oui, plus de 52 000 cas de coronavirus enregistrés sur tout le territoire pour la seule journée d'hier. C'est la première fois qu'on passe cette barre symbolique des 50 000 contaminations en 24 heures. Un chiffre qui, selon le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, ce matin est sous-évalué. On serait plutôt aux alentours des 100 000 cas quotidiens, selon lui. De plus en plus de tests reviennent positifs. 17% de l'ensemble des tests PCR, c'est considérable. Et ces contaminations, vous le savez, ont une répercussion sur notre système de santé. En Île-de-France, la situation est plus que critique. 67% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. À ce rythme-là, on sera au-dessus des 90% le week-end prochain, selon des projections de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Situation également très tendue dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, où les petits hôpitaux sont totalement débordés ces derniers jours.
Le professeur Delfraissy qui se dit lui-même surpris par la brutalité de cette vague et qui préconise donc un durcissement des restrictions.
Oui, il prévoit une deuxième vague beaucoup plus forte que la première et il n'est pas le seul. Ces derniers jours, plusieurs scientifiques haussent le ton. L'épidémie est hors de contrôle. Il faut donc faire redescendre la pression sur le système hospitalier et comme il est trop tôt pour évaluer l'impact du couvre-feu, alors, il ne reste plus beaucoup de solutions. Il faut reconfiner, comme l'explique Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris.
Ça va être très compliqué d'avoir un confinement qui soit loco-régional, comme on l'imaginait dès le début de la reprise, en tout cas dès le début septembre, probablement qu'il aurait fallu prendre cette mesure. Donc je pense que le confinement, il va être national. C'est pas le couvre-feu qui va suffire. Mais s'il y a confinement, il faut qu'il soit accompagné par une politique de dépistage et une politique d'isolement.
J'ai la certitude que nous allons vers un confinement, estime de son côté Jean Rottner, le président de la région Grand Est, également médecin urgentiste. Plutôt que d'attendre, l'élu LR plaide pour une discussion avec le gouvernement. Si reconfinement il doit y avoir dans les 10 ou 15 prochains jours, parlons-en dès maintenant, demande-t-il, pour qu'une fois, les politiques et les scientifiques accordent leur violon.
Victor Delande, merci. En tout cas, les hôpitaux se préparent à des semaines très difficiles. Illustration à l'hôpital de Marne-Chantraine en Seine-et-Marne, Johanna Chabas.
Ici, pour faire face à l'afflux de patients, l'hôpital a décidé de réserver aux malades du Covid un étage entier avec 42 lits. Les patients viennent du département, mais plus largement de toute l'Île-de-France. Au bord de la saturation, des hôpitaux du 94, du 93 et de Paris ont envoyé leurs malades ici pour désengorger leur service. Olivier Pellix est le directeur de l'établissement. Il constate que les patients arrivent de plus en plus vite.
À ce jour, il nous reste seulement 2 places disponibles. Ce week-end, nous étions déjà pleins et nous n'avions plus de place. 70% des patients sont des patients que l'on prend de l'extérieur. 30% sont des patients que l'on recrute en direct. On sent que la pression augmente et la pression autour de nous est de plus en plus forte pour accueillir les patients. On ne peut pas libérer un lit en se disant qu'il va être libre pendant 4 heures ou 5 heures ou que le lit ne va pas être occupé pendant la nuit. On sait pertinemment que le lit va être très rapidement occupé.
La seule solution pour récupérer de la place, c'est accueillir plus de malades et de déprogrammer. Ici, 40% des opérations de médecine ont été reportées et le directeur Olivier Pellix s'inquiète pour la suite, notamment pour ses équipes. Lors de la première vague, il avait pu obtenir des renforts venant du Nord, de l'Aquitaine ou encore de Savoie. Une aide impossible aujourd'hui, ces zones étant elles aussi extrêmement touchées par l'explosion du nombre de cas de Covid.
Johanna Chabas depuis la Seine-et-Marne. L'Europe tout entière est submergée. Contamination record en Italie où le gouvernement ferme les cinémas et les théâtres toute la journée. et les bars et restaurants après 18h. En Espagne, nouvel état d'urgence sanitaire et couvre-feu dans tout le pays. Et en Belgique, restrictions renforcées face à une situation jugée catastrophique. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. La Belgique est désormais l'un des pays les plus touchés au monde.
Et oui, la Belgique avait déjà souffert lors de la première vague avec une mortalité très élevée. Elle prend aussi la deuxième de plein fouet. Avec la République tchèque, c'est le pays d'Europe où les taux de contamination sont les plus élevés et de loin. Le couvre-feu est donc durci de minuit à 22h à Bruxelles et en Wallonie. Dans la capitale, cinéma, théâtre, musée, mais aussi salles de sport ont dû fermer ce matin. C'est déjà le cas dans tout le pays pour les bars et les restaurants depuis une semaine. Les vacances scolaires des enfants vont être prolongées. Le sentiment général, c'est que les politiques et la population ont tardé à prendre la menace au sérieux. La cacophonie a régné ces derniers jours entre les différents niveaux de pouvoir de ce pays fédéral. Écoutez l'appel à tous les Belges lancé ce matin du coup par Yves Van Lanten. C'est le porte-parole fédéral pour la lutte contre le coronavirus.
N'essayez pas de chipoter avec les règles, chose qu'on a l'habitude de faire en Belgique pour des tas de choses. Eh bien, c'est pas le moment. Il faut effectivement maintenant vraiment limiter nos contacts sans chercher à circonvenir ce qu'on vous recommande. Non, il ne faut pas vivre comme des moines, mais il faut assumer maintenant nos responsabilités en ce moment crucial.
Moment crucial car si la tendance se poursuit, tous les lits de réanimation du pays seront occupés d'ici 2 semaines et les hôpitaux totalement saturés.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. À Paris, je vous le disais, conférence sociale à Matignon. La réforme de l'assurance chômage est à nouveau reportée de 3 mois, application au plus tôt le 1er avril.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, la Turquie d'Erdogan qui attise la colère du monde musulman contre la France.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Pour avoir rappelé nos principes et nos valeurs, pour avoir simplement promis que la France continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet au nom de la liberté d'expression, Emmanuel Macron a déclenché une nouvelle tempête dans le monde arabo-musulman. Appel au boycott des produits français, pour lequel le président du MEDEF a demandé à ses adhérents de résister au chantage. Protestations officielles jusqu'à celles du Maroc, par la voix de son ministère des Affaires étrangères. Mais le plus virulent et le plus injurieux demeure le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a renouvelé hier ses attaques sur la santé mentale du président français. Louis de Raguenel, que dit l'Élysée ce matin? Il y a une volonté de ne pas laisser passer, voire de riposter à la Turquie?
Oui, après l'indignation, la riposte. Voilà l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Et à l'Élysée, l'entourage du président travaille à une contre-attaque. Contre-attaque qui pourrait entrer en action d'ici 2 ou 3 jours. Selon nos informations, après le rappel à Paris de l'ambassadeur de France en Turquie, 3 pistes de riposte sont à l'étude. Premièrement, après les appels au boycott relayés notamment par les réseaux turcs, eh bien la France réfléchit à des sanctions économiques en limitant par exemple l'importation de produits turcs. Ensuite, au niveau militaire, l'exécutif envisage d'intensifier ses opérations en Méditerranée, une zone où la marine turque est très présente. Enfin, au niveau intérieur, les réseaux d'influence turque, déjà bien surveillés par la DGSI, le renseignement intérieur, eh bien les contrôles et la pression pourraient se renforcer sur eux. Un conseiller du président le confie, il faut que tout le monde comprenne que c'est le pays entier qui est attaqué. Il ajoute, la menace terroriste est XXL. Une difficulté quand même dans ce plan, c'est au niveau de l'Union européenne, car le Quai d'Orsay a beau se mobiliser dans tous les sens, l'Allemagne est particulièrement gênée. Effectivement, Angela Merkel ne veut pas que les déclarations de guerre d'Erdogan contre la France ne se déportent sur son pays, où, rappelons-le, la population d'origine turque est la plus importante d'Europe.
Louis de Raguenel, merci. Dans la Drôme, hier soir à Saint-Vallier, une rixe a fait 1 mort, une mère de famille, et 6 blessés, bagarre à l'arme blanche pour une histoire de cigarettes refusées. Jean-Luc Boujon.
Oui, effectivement, c'est ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête, sachant que pour le moment, les faits sont encore assez confus. Alors donc, on sait que ça se passe à la sortie du restaurant McDonald's de Saint-Vallier hier soir. Un groupe de jeunes demande une cigarette à un autre groupe de personnes qui est en train de sortir du fast-food. Ce sont des Roumains qui habitent dans la petite ville, refus de ces derniers. Quelques noms d'oiseaux sont échangés. La dispute, simplement verbale au départ, se transforme en véritable rixe dans le centre-ville. Rapidement, les agresseurs sortent des couteaux et poignardent plusieurs personnes du groupe des Roumains avant de prendre la fuite. Au total, 7 personnes sont blessées, parmi lesquelles, effectivement, une femme de 30 ans, plus grièvement touchée. Ses proches tentent alors de la transporter en voiture vers les urgences, mais Face à la gravité de son état, ils appellent finalement les secours. La femme meurt au moment où ceux-ci arrivent sur place. Alors qu'il est, 4 autres personnes de ce même groupe sont toujours hospitalisées. 2 en urgence absolue, 2 autres en urgence relative, indique la préfecture de la Drôme. Un des agresseurs présumés est également soigné à l'hôpital. Un autre a été placé en garde à vue. Il est actuellement entendu par les enquêteurs. Mais on ignore encore son degré d'implication dans cette bagarre mortelle.
Jean-Luc Boujon, les navigateurs du Vendée Globe, le fameux tour du monde à la voile en solitaire, vont rester confinés des mois dans leur bateau. Mais 15 jours avant leur départ des Sables d'Olonne, les voilà contraints déjà de s'auto-confiner pour ne pas risquer d'être forfait par le virus. Corinne Boulou.
Moi, je serai aux Sables d'Olonne. Déjà, je serai rassurée parce que aussi peu de temps avant le départ de mon tour du monde, je me sentirais très mal d'être loin du bateau.
Comme la navigatrice Isabelle Josque, une majorité des 33 concurrents est désormais à l'isolement, loin de l'agitation de Port-Olona, où les grands monocoques sont amarrés. De 7 jours obligatoires de confinement avant départ, ils ont pour la plupart choisi de s'éloigner encore plus longtemps pour une préparation inédite.
Le confinement, ça va être beaucoup de travail de météo, aussi beaucoup de calme pour être en pleine forme physiquement mais aussi mentalement parce qu'il y a un stress énorme sur un départ de course comme ça.
Ce confinement s'est imposé face à la menace d'un dernier test positif avant départ qui ruinerait tout espoir de prendre le large. Le navigateur suisse Alain Roura.
Alors c'est une angoisse parce que c'est des projets qu'on mène depuis des années, c'est beaucoup d'investissements autant personnels que financiers et nous dire tu n'y vas pas, c'est dur. Donc c'est pour ça que la plupart des skippers font un confinement plus long que ce que l'organisation demande, histoire d'être sûr du coup.
Et ce n'est que le 8 novembre au matin que les marins retrouveront leur grand voilier enfin pour larguer les amarres.
Corinne Boulou, merci. Le temps